professeur à l'université Grenoble-Alpes, docteur en philosophie et directeur du centre de physique théorique de Grenoble. L'hypothèse K, la science face à la catastrophe écologique, c'est votre nouvel essai, texte qui provoque comme un électrochoc, c'est en tout cas ce que j'ai ressenti, l'hypothèse K, sur laquelle nous nous arrêterons dans la deuxième partie de cet entretien. Vous êtes avec nous en duplex, installé dans un studio de Radio France à Grenoble. Ça n'aurait pas eu de sens pour vous de venir dans notre studio à Bruxelles, Aurélien Barreau ?
Oui et non. Je déteste ce foisonnement technique qui fait que nous avons cette conversation sans nous regarder, donc je ne suis pas du tout à l'aise avec cette idée de passer par des machines, alors que l'échange humain et la proximité, la promiscuité, le regard, peut-être même le contact physique serait tout à fait indispensable. Et pourtant, en effet, faire deux fois cinq heures de train pour échanger quelques mots me met très mal à l'aise également, donc je crois que c'est un compromis acceptable.
Ça va être plus que quelques mots, vous allez voir. Est-ce que vous avez suivi la COP28 qui s'est terminée cette semaine à Dubaï ?
Non, sincèrement, ça ne m'intéresse pas du tout.
Pas du tout ?
Oui, j'ai suivi un peu, je vous fais une réponse provocatrice parce que c'est mon habitude, c'est mon rôle et c'est ce que je sais faire. Donc je sais un peu ce qui s'y est passé, mais si vous voulez, je ne veux pas participer à ce concert de critiques. Cette COP est évidemment extraordinairement insuffisante.
Bon, on parle pourtant d'un accord historique trouvé à Dubaï sur une transition hors des énergies fossiles.
Oui, c'était formidable. En fait, vous savez ce qui est historique dans cet accord, c'est que c'est la première fois que le mot combustible fossile est prononcé. C'est ça qui est historique. C'est tout à fait extraordinaire. Enfin, ça relève de la tartufferie. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que, à mon avis, quand bien même, cette COP aurait pris des mesures drastiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'elle n'a pas fait, ça ne servirait néanmoins quand même pas à grand-chose. Parce que ce n'est pas ça la question, ce n'est pas ça le problème, et ce n'est pas à cela qu'il faut s'attaquer.
Parce que lors de ces COP, de ces conférences des Nations Unies sur les changements climatiques, il est très régulièrement question des températures, des degrés à ne pas dépasser pour tenter d'éviter le pire. Mais vous, vous expliquez, et c'est d'ailleurs la science qui nous permet de le démontrer, qu'en fait le réchauffement climatique n'est qu'une petite partie du problème, Aurélien Barreau.
Oui. Un double niveau. C'est une petite partie du problème, je dirais factuellement, parce que nous sommes dans un effondrement qui est fondamentalement systémique et plurifactoriel, et à ce stade, comme chacun sait hein, aujourd'hui, le réchauffement climatique ne joue aucun rôle, n'a joué aucun rôle dans le fait que nous ayons déjà exterminé l'essentiel des êtres vivants de cette planète. Donc c'est tout à fait déraisonnable de se focaliser sur lui. Mais au-delà même de cet argument factuel, pourrait-on dire, en faveur d'une vision globale, je crois qu'il y a quelque chose de plus profond, en fait. C'est de rater la crise du sens, qui n'est pas simplement un problème technique qui appelle une solution technique. En réalité, c'est tout notre rapport au monde qu'il est aujourd'hui nécessaire de questionner, et pas seulement s'enfermer dans une sorte de recherche simpliste à des questions qui sont tellement mal posées qu'elles enferment dans l'infime.
Et se focaliser sur le réchauffement, ça serait pour vous une manière en fait de se rassurer ?
Oui, je crois que c'est le plus simple de nos problèmes, parce que c'est le seul qui peut faire encore un peu perdurer cette impression tout à fait délirante, je pèse mes mots, suivant laquelle nous aurions affaire à un problème d'ingénieur, parce que c'est tout ce que notre société de technocrates est capable de penser. Mais c'est pas du tout un problème d'ingénieur. Pour le dire de façon caricaturale, on est aujourd'hui en train de se demander comment fabriquer des armes de destruction massive issues du commerce équitable et utilisant des matériaux biologiques. C'est ça qu'on fait en décarbonant l'économie. C'est totalement ridicule. Ce qu'il faudrait, c'est ne plus utiliser ces armes de destruction massive, ce qui, lorsqu'on transpose la métaphore dans des termes plus explicites et plus littéraux, signifierait réapprendre à aimer la vie. Tant que la destruction de la vie, comme c'est aujourd'hui le cas, demeure notre objectif, notre horizon, notre dessein, la manière par laquelle nous y parvenons n'a finalement, chacun en conviendrait, aucune importance.
Notre époque n'aime pas la vie, Aurélien Barreau ?
Disons qu'elle aime une vie tellement atrophiée, tellement caricaturale, tellement reproductible, tellement réifiée, que je crois qu'effectivement, il y a un véritable déficit d'amour. Pour le dire autrement, je crois que ce que nous appelons réalité augmentée est en fait une réalité diminuée. Ce que je veux dire, c'est que la vie, ce ne sont pas des vidéos YouTube de chatons en train de s'ébattre les quatre pattes en l'air. Mmh. Ça, tout le monde aime, ça c'est très instagrammable, c'est parfait, tout le monde adore et tout le monde croit aimer les animaux. La vie, c'est pas ça. Mmh. C'est le surgissement de l'altérité, c'est la confrontation à l'autre radical, c'est la découverte comme ça d'une sorte d'épiphanie, d'inattendu. Ça, et ça n'a absolument rien à voir avec ce que peuvent nous proposer les réseaux sociaux, les intelligences artificielles, les agents conversationnels ou toutes ces techno-débilités que nous croyons aimer et qui relèvent en réalité d'une addiction.
Dans votre texte, vous parlez pas mal et vous critiquez pas mal ce que l'on appelle le technosolutionnisme. Et pour vous, ça n'est clairement pas la solution. Selon vous, le technosolutionnisme contribue même activement à l'effondrement. De quelle manière, Aurélia Barraud ?
Je dirais qu'il y a une double réponse. La première réponse est très factuelle et très simple, c'est que ça ne marche pas. Je suis un peu agacé que des hommes et des femmes ayant l'image de personnes sérieuses, parce que diplômées, parce que bien habillées, parce que autorisées dans les cercles des élites, continuent à faire perdurer une pensée magique. Je dirais la beauté en moins, hein, parce qu'il peut y avoir de l'élégance dans la pensée magique, mais pas dans la leur. Mmh. C'est-à-dire qu'ils continuent à tenter de nous faire croire au Père Noël en oubliant le fait, hein, l'évidence en quelque sorte incontestable, que depuis un siècle et demi, nous avons la démonstration par l'histoire que la technique ne peut pas apporter de solution aux problèmes auxquels nous faisons face. Donc déjà, si vous voulez, il y a une sorte d'erreur factuelle qui consiste à parier notre survie sur quelque chose qui s'inscrit en faux, qui est infirmé par l'histoire récente. Donc ça, déjà, c'est extraordinairement délictueux, en quelque sorte. Mais la seconde réponse est encore plus profonde. C'est qu'il ne peut pas y avoir de solution technique pour une raison très simple, qui est que notre problème n'est pas technique. Mais si vous n'aimez pas vos enfants, par exemple, vous n'allez pas à la Fnac ou dans un magasin d'électronique chercher le gadget qui permettra de recouvrer une parentalité saine. Ce n'est pas une question technique. C'est autre chose. C'est une question axiologique, c'est-à-dire de valeur, une question ontologique, c'est-à-dire de définition du réel, cosmologique, c'est-à-dire de ressenti de l'univers dans lequel nous nous trouvons. Mais nous ne sommes pas du tout face à une question technique. Donc le technosolutionnisme, si vous voulez, est doublement stupide. D'une part, il ne sait pas répondre aux objectifs qu'il se fixe lui-même, ça ne marche pas, c'est un fait. Je vais donner un exemple pour qu'on comprenne bien que mes mots sont argumentés. Savez-vous de combien de pourcents on a amélioré, on a diminué en quelque sorte la consommation d'essence par kilomètre entre aujourd'hui et les voitures d'il y a 50, 60 ou 70 ans? Eh bien, je vais vous faire la réponse, c'est 0%. Parce que quand bien même on aurait compris que les moteurs sont de plus en plus efficaces, ce qui est vrai, le poids des voitures a évidemment évolué en conséquence, si bien qu'in fine, la consommation par voiture ne diminue pas, et comme le nombre de voitures explose, la consommation totale explose. Donc on le voit, on peut faire des moteurs de plus en plus efficaces, in fine, on perd à tous les coups. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que de toute façon, c'est une manière de ne pas faire face aux vraies questions. Et c'est pour ça que ça amplifie la catastrophe. C'est parce qu'on s'enferme dans une idéologie qui consiste à dire comment continuer encore un peu dans la même direction. Éventuellement, la technologie peut nous permettre de gagner quelques années. Je n'y crois pas, mais c'est envisageable du point de vue conceptuel. Mais en réalité, c'est la direction le problème. Donc vous voyez, ça empêche de mettre sur la table les questions signifiantes.
Et par exemple, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers jours, lors de cette COP28, les projets de captage de CO2, c'est du poison plutôt qu'un espoir de solution ?
Non mais, en fait, je vais être très clair, ça ne mérite même pas d'en parler. Donc je n'en parlerai pas.
Bon, passons à la suite. Donc Aurélien Barraud, s'extraire du technosolutionniste ne serait pas seulement écologiquement salvateur, ce serait aussi intellectuellement salutaire et socialement réjouissant. C'est bien là la seule bonne nouvelle, il est possible de gagner sur tous les tableaux. C'est ce que vous écrivez, Aurélien Barraud, dans votre nouvel essai. Mais économiquement, est-ce que ça sera salutaire ?
Oui, alors il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur cette question. Il y a bien une posture, n'est-ce pas, que je n'adopte pas, c'est celle consistant à faire croire que ça va être simple. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je n'ai absolument aucun espoir dans une solution heureuse à ce temps tragique.
Donc c'est fichu pour l'humanité.
Difficulté. Mais l'humanité, moi, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens que j'aime, ce sont mes enfants. L'humanité, en tant qu'abstraction conceptuelle, après tout, c'est une espèce parmi 7 millions d'autres, ça m'intéresse pas.
Donc c'est fichu pour vos enfants ?
Ce sont les singularités, c'est ça qui est intéressant. Donc chaque mort d'un être humain est déjà la fin du monde. Et c'est ça la question. C'est pas de se demander si on va sauver l'espèce, c'est de se demander combien de personnes vont mourir, comment vont-elles mourir, avec quel niveau de souffrance et avec quelle déshumanisation. Donc je crois que la question, elle est plus fine en réalité que celle de l'espèce. Alors, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle ce que vous avez lu. Pourquoi ? Parce que, en réalité, je suis tout à fait persuadé que nous pourrions gagner sur tous les tableaux. C'est-à-dire que si on parvient à sortir de notre endoctrinement, de notre ensorcellement à la technoscience...
On est drogué ?
Alors, non seulement... On peut, ah oui, drogué, c'est même un mot faible, parce que la plupart des drogués ont quand même conscience qu'ils sont dans une relation de dépendance qui est globalement néfaste à leur santé mentale. Alors qu'il semble que nos représentants politiques n'aient pas du tout compris que nous soyons aujourd'hui face au cancer technologique dans cette situation-là. Donc c'est presque une étape, une méta-étape, hein, je dirais, de drogue et de stupéfiants techniques. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que si on s'extrait de ça, alors, c'est un problème très générique, hein, qui dépasse simplement la prolifération technique, qui n'est qu'un des aspects naturellement de l'effondrement. Mais si on parvient à s'extraire de cette addiction, on va non seulement être beaucoup plus heureux, ça je vous le promets, je vous assure que les enfants sont beaucoup plus heureux quand ils redécouvrent les villes, quand ils redécouvrent les arbres, quand ils redécouvrent les livres, que quand ils sont scotchés sur TikTok et Insta, je vous le promets. Donc on peut y gagner, et en parallèle, on peut évidemment se sauver. Donc vous voyez que l'idée qu'il faudrait se serrer la ceinture pour s'offrir une chance de perdurer est totalement inepte en réalité.
Ouais, il faut ça ne vous plaît pas quand on parle de sobriété et quand on dit que la sobriété est synonyme de privation.
Mais c'est pas de la sobriété, c'est du désendoctrinement. Alors je veux bien qu'on appelle sobriété le fait de ne plus faire des shoots d'héroïne tous les matins, mais moi j'appellerais ça une guérison tout simplement.
Mais économiquement, alors on fait comment, Aurélien Barraud ?
Ah oui, ben voilà, ça c'est l'acte manqué très révélateur. J'avais évidemment oublié cet aspect de la question. Bon, vous avez raison, hein, la situation est complexe et loin de moi l'idée de le nier. Je crois qu'il faut bien comprendre que tenter de jouer un bon coup dans une partie perdue d'avance n'a aucun intérêt. Ce qui est une manière de dire que si effectivement on change la manière de jouer sans changer les règles du jeu, ça ne peut effectivement pas fonctionner. Néanmoins, indépendamment de la crise écologique, je pense que chacun conviendra que la situation économique mondiale n'est pas tout à fait saine. Hein, on a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes en ce moment, il y a des inégalités qui sont galopantes, y compris au sein de l'Europe. Par conséquent, il me semble tout à fait évident que notre système économique, indépendamment de la catastrophe civilisationnelle, mérite d'être questionné. Et là encore, ce qui paraît tout à fait évident, c'est qu'on peut faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que la migration, la mutation, la révolution, on peut l'appeler comme on le souhaite, économique qui est nécessaire pour accompagner cette transition civilisationnelle, pourrait, me semble-t-il, se faire pour le meilleur.
Et face à ce désastre écologique, vous observez la manière dont la science se comporte et vous écrivez ceci: la science ne constitue qu'une manière parmi d'autres de faire un monde. C'est-à-dire, Aurélien Barraud.
Oui, alors ça c'est le point important de ce petit livre, parce que finalement j'ai donné des leçons ces dernières années aux chefs d'entreprise, aux décideurs politiques et ainsi de suite. Et je trouve qu'il était humble et nécessaire de m'interroger quant à mon propre métier. Et nous, les scientifiques, que devons-nous faire face à cette situation sans précédent ? Et ma conclusion, effectivement, c'est que nous n'avons pas non plus les mains tout à fait propres. Naturellement, nous ne sommes pas les pires. Hein. Les astrophysiciens sont sans doute moins néfastes que les pétroliers, incontestablement. Mais nous ne sommes pas tout à fait propres quand même, parce qu'en réalité, nous alimentons la machine, nous faisons fonctionner le système, et d'une certaine manière, je crois que nous contribuons à un certain productivisme du savoir. Autrement dit, je crois que la science est sur la brèche, si vous voulez. Pourquoi elle est sur la brèche ? Parce qu'en réalité, elle a un pouvoir extraordinairement grand. Nous avons construit en fait un rapport au monde dans lequel la science est presque hégémonique. Et c'est ça qui a été perdu. Loin de moi l'idée de dénigrer la science. J'adore mon métier, travailler sur la gravité quantique et l'origine de l'univers me passionne tout à fait. Rien n'est plus beau qu'un système binaire de trous noirs. J'en demeure absolument convaincu. Il n'en demeure pas moins que dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire civilisationnel qui est le nôtre, la science serait en quelque sorte l'être intrinsèque, objectif, en tant que tel, du monde. Et ça, c'est tout à fait erroné. Comme le soulignait un philosophe que j'aime beaucoup, Nelson Goodman, la science est une manière de faire un monde, une très belle manière, très respectable, très enviable et très louable.
Mais quelles sont les autres manières, par exemple ?
Tous nos champs cognitifs sont des manières de construire des mondes. Les arts sont des manières de faire des mondes. La philosophie est une manière de faire un monde. La poétique est une manière de faire un monde. Et surtout, toutes les manières que nous avons oubliées parce que nous avons tendance à croire que l'Occident contemporain est la totalité de l'humanité. Et ça, bien sûr, c'est le grand geste néocolonial absolument dramatique qui nous fait perdre de vue ce que, par exemple, Philippe Descola, en anthropologue, nous rappelle tout le temps. Il existe une richesse inouïe de manières de faire fonctionner le réel qui ne sont a priori ni plus ni moins stupides que les nôtres et qui permettraient aujourd'hui d'ouvrir des horizons absolument indispensables. Et donc ce que je critique, pour être parfaitement clair, ce n'est pas la science en tant que telle, c'est la place hégémonique qu'elle a prise dans notre conception du réel. Et en parallèle de cette hégémonie, son indexation en quelque sorte à un schéma de production et donc de réitération de la dynamique globale.
Et de réification, la science demeure muette, écrivez-vous, par essence, sur ce qui constitue le véritable méfait, le seul qui mériterait d'être sérieusement pensé, à savoir l'extraordinaire effondrement de notre puissance d'être qui se profile ici. Et là, vous évoquez, Aurélien Barreau, la prolifération de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Vous ajoutez, veut-on que nos lignes de vie deviennent littéralement programmées ? C'est votre crainte ?
Mais oui, c'est tout de même très étrange qu'on ne parvienne pas à se rendre compte que la science ne nous dit pas ce qu'on veut. En fait, toutes les réflexions, et encore je suis bien généreux en les nommant ainsi, qui se déploient aujourd'hui dans la sphère publique et dans la sphère politique, partent d'un postulat qui est comment continuer à l'identique. Mais c'est tout à fait insupportable. C'est-à-dire, quand bien même nous ne serions pas en train d'obérer nos conditions de survie, nous serions en train de nous engouffrer dans une voie qui n'a aucun sens. Pour le dire de façon triviale,
nous sommes entêtés
et sans pédantisme. Mais oui, mais ce que nous inventons ne nous rend pas heureux. C'est aussi simple que ça, ce que j'essaye de dire. La surabondance des logiciels, des machines, des écrans, tout ça ne nous rend juste pas heureux. Acheter un billet de train, demander à la plupart des grands-mères et des grands-pères de nos pays, c'est devenu extraordinairement anxiogène. C'est devenu stressant. Et en fait, soyons même clairs, ils n'y arrivent pas. C'est devenu presque impossible d'acheter un billet de train. Et donc, nous avons créé une sorte de monstre, et plutôt que de nous interroger sur la légitimité de ce monstre et sur son éventuel démantèlement, nous nous demandons comment construire des annexes au monstre qui pourraient éventuellement contrer certaines de ses externalités négatives. Autrement dit, on est en train de construire l'élément pathogène et le vaccin. L'ennui, c'est qu'on sait que le vaccin parfois ne fonctionne pas, parfois a des effets indésirables, et qu'il serait peut-être plus intéressant de commencer par ne pas produire le virus.
Vous parlez de l'intelligence artificielle, vous parlez aussi de ChatGPT, et vous écrivez ceci, je vais vous laisser commenter ensuite. Lire un texte écrit par une intelligence artificielle revient à faire l'amour avec une poupée gonflable, tout y est, sauf l'amour.
Et oui, mais je suis stupéfait, finalement, que nous laissions faire et que nous acceptions cette atrophie, effectivement, je crois que vous employez le mot il y a quelques instants, de notre puissance d'être.
C'est ça.
Parce que, finalement, le langage, c'est deux choses. C'est une référence au locuteur ou à la locutrice. C'est très important. Nous savons qui parle, dans quel contexte, pourquoi, avec quelle culture, avec quel environnement, et c'est fondamental. Et c'est une référence au réel, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans le langage une promesse de vérité. Elle n'est pas toujours tenue, mais elle existe toujours. Dans une intelligence artificielle, et encore le mot intelligence est parfaitement inapproprié, puisqu'il ne s'agit que d'un logiciel, d'un programme qui est tout sauf intelligent, en fait, on se fonde sur des schèmes probabilistes, autrement dit sur la complétion d'un texte de la manière la plus attendue, compte tenu de ce que l'algorithme a d'ores et déjà ingurgité. Mais alors ça n'a absolument aucun sens, parce que d'une part, on perd la double référentialité que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a plus d'auteur et il n'y a plus de concept de vérité, c'est quand même un peu embêtant pour un texte, et en plus, en quelque sorte, on s'interdit les véritables pensées révolutionnaires et disruptives qui sont exactement celles qui seraient aujourd'hui vitales, puisque l'intelligence artificielle ne peut qu'interpoller entre ce qui a été déjà produit et ce qui a été déjà compris. C'est donc un double effondrement de la pensée, incontestablement. Et surtout, je voudrais insister sur un point tout à fait essentiel. On le justifie parfois parce qu'il y aurait quelques applications intéressantes en médecine, par exemple. Alors ça, c'est vraiment le point Godwin, ou appelons-le si vous voulez le point Barreau, de la technodébilité. Parce que dans n'importe quelle action, on évalue, et en particulier en médecine d'ailleurs, les bénéfices et les risques. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? On fait ça tout le temps dans la vie. Moi, je viens ici à une émission de radio, bah, figurez-vous que voilà, j'ai des collègues qui sont actuellement à Grenoble, j'aimerais beaucoup discuter de gravité quantique avec eux. Bon, je me suis dit que ça valait le coup quand même de parler avec vous, donc je perds quelque chose, je gagne autre chose. On passe notre temps à faire ce genre de choix. Mais quand il s'agit de technique, il semblerait que le simple fait qu'il y ait quelques conséquences positives nous autorise à ne pas voir l'immensité de la partie immergée de l'iceberg qui est presque toujours globalement négative. Et ça, c'est tout à fait intellectuellement indéfendable.
Allez, on va quitter à présent quelques instants la Terre.
5, 4, 3, 2, 1, feu.
Ne sont pas des héros, ils en seraient même la presque exacte antinomie, marionnette médiatique lisse et souriante d'un système de désublimation généralisée, objets marketés caricaturaux du grand spectacle globalisé. Et vous aurez sans doute reconnu le spationaute français Thomas Pesquet. Il dit qu'il faut aller dans l'espace pour ressentir la fragilité de la Terre. Qu'est-ce que vous répliquez?
Ah, vous êtes dur avec moi. Non, je l'avais pas reconnu parce que je crois que je l'avais jamais entendu pour être
voilà.
Écoutez, Thomas Pesquet est sans aucun doute quelqu'un de brillant et de sympathique. J'ai absolument rien de personnel à son encontre. Mais ce qu'il dit là, c'est insupportable. Insupportable. Enfin, ce qu'il faut, c'est redécouvrir l'enchantement de l'ici. Nous laisser entendre. D'abord, il ne va pas dans l'espace. La station spatiale, comme vous savez, est à 400 km. La Terre doit faire environ 13 000 km de diamètre. Donc, c'est à peu près la taille d'une peau d'orange par rapport à la Terre. Donc, c'est tout sauf l'espace, en réalité. Mais à ce détail près, c'est absurde. Et c'est même triste. Et honnêtement, et une fois de plus, avec tout le respect dû, c'est un peu sale. C'est un peu sale. Enfin, vous vous rendez compte qu'il suffit d'une loupe et de s'asseoir dans l'herbe pour découvrir le multivers absolument merveilleux, fou, fantastique, miraculeux de ces mondes d'insectes que nous n'avons pas.